Je vous remercie de m'avoir accueilli en tant qu'exégète. J'étais un peu un ovni, je peux dire, dans votre séminaire. Parce que je peux dire que les patrologues sont souvent de bons exégètes. Je parle d'exégèse biblique. Mais vu le prisme aujourd'hui, je peux dire qu'il y a deux catégories d'exégètes. Il y a ceux qui lisent les Pères de l'Église pour documenter leurs analyses. Et puis il y en a beaucoup qui ne les lisent pas du tout. Et j'ajouterai, parmi les exégètes, il y a des théologiens qui écrivent des traités de théologie, et ceux-là lisent les Pères de l'Église. Et François Bovon en fait partie, et je l'avais signalé lors de notre séminaire. Et je pense que tout le monde sera d'accord ici, il faut être bon théologien pour lire les Pères de l'Église, mais les biblistes sont plutôt philologues et littéraires, et évidemment historiens. Car en tout état de cause, il faut être philologue, historien et connaître la culture du corpus lu pour être bon exégète. Et savoir utiliser une méthode. Il faut montrer la méthode qu'on utilise. Une méthode adéquate pour analyser un texte biblique. Donc vous pouvez faire de très bons commentaires bibliques sans allusion au Père de l'Église et d'autres qui n'interpréteraient pas, d'autres exégètes qui n'interpréteraient pas les textes bibliques sans parler, sans discuter avec les pères de l'Église. Alors François Bovon est de ces derniers. C'est un merveilleux exégète, mais c'est aussi un théologien. Il a écrit un livre qui s'appelle Luc, théologien. Yves-Marie Blanchard aussi. Mais Yves-Marie Blanchard, qui est parmi nous et qui est un exégète, mais il est aussi patrologue et donc théologien. Et je m'appuierai sur ces deux exégètes pour mener ma propre réflexion et aussi sur les travaux qu'on a menés pendant ce séminaire avec Michel Fédou, Martine Dulay et Isabelle Bochet et les autres participants. Je m'appuierai aussi sur les travaux de François Bovon et Jean-Noël Aletti. Alors quel intérêt y a-t-il à lire les Pères de l'Église quand nous expliquons un passage biblique ? Yves-Marie Blanchard. Alors, je vous ai mis une feuille où vous avez vu les textes bibliques en synopse. Puis après, vous avez Luc 24, Jean 21. Et puis, vous avez quelques citations. Et je commence par la première pour nous donner un peu ce que je vais essayer de faire, qui est une citation de Yves-Marie Blanchard. À l'heure où, en exégèse biblique, il devient normal de croiser l'acquis des méthodes historiques et l'apport des sciences du langage reçues au travers de la nouvelle critique littéraire et enrichies des questions portées par la philosophie herméneutique, les pères de l'Église nous redeviennent quasiment familiers. Leur façon de lire la Bible n'est plus si loin de la nôtre. Leur étrangeté s'est largement estompée. Certes, il ne s'agit pas de les reproduire selon une logique de restauration parfaitement stérile. Il convient de comprendre ce qu'ils font dans une attitude herméneutique nourri d'une profonde empathie, plutôt que de les rejeter au nom d'une prétention critique, insolente et quelque peu tyrannique. Il s'agit aussi de voir en quoi leur démarche exégétique, forcément différente de la nôtre, n'en est pas moins proche. Dès lors, susceptible d'éclairer, voire de soutenir ou conforter quelques-unes des intuitions majeures, placées à la source et au cœur de ce que nous vivons aujourd'hui comme un tournant épistémologique important. Je rappelle qu'aujourd'hui est utilisée deux sortes d'exégèse. L'exégèse, alors je vais vous montrer mon plan, ça sera plus commode pour vous. Donc je vais d'abord vous rappeler ce que c'est que l'exégèse diachronique et l'exégèse synchronique, très rapidement. Nous avons l'exégèse diachronique qui, et je pense que tous les exégètes seront d'accord, cette exégèse diachronique qui s'intéresse à l'histoire du texte. Et nous avons eu un bel exemple ce matin avec Mathieu Cassin qui nous a donné un exemple d'établissement du texte. Bon, tous les exégètes sont d'accord que sans les patrologues, sans les travaux des pères de l'Église, eh bien, nous ne pourrions pas établir le texte. Donc, ça, c'est réglé. Mais moi, je vais me mettre dans l'exégèse synchronique. Qu'est-ce que c'est que l'exégèse synchronique? Elle s'intéresse au texte dans son entièreté et dans sa littéralité. Donc, L'exégèse sacronique ne s'intéresse pas à sa rédaction, mais néanmoins, elle prend avis des travaux qui ont été faits par les exégètes diachroniques. Il faut se souvenir que depuis le milieu du XXe et jusqu'à maintenant, est apparue et était utilisée une exégèse technique qui s'intéresse à la construction littéraire, autrement dit, qui prend en considération la dimension littéraire des écrits bibliques. Comment est écrite une lettre à l'époque? Comment est écrit un hymne? Comment est écrit un récit? Donc, je vais parler de l'analyse de la rhétorique, de l'étude de la poétique et de la narrativité. Ces approches étudient la construction du texte pour en déterminer la théologie. Et la réflexion théologique suit et découle des résultats des analyses. Même si les pères, les alexandrins et encore plus les antiochiens disent qu'ils partent de la lettre pour aller vers la théologie, l'impression de l'exégète contemporain est exactement inverse. Les pères partent de la théologie pour la vérifier dans les textes, avec souvent une intuition formidable, car ils ont une vision globale de tous les textes. Et je reprends une citation de Yves-Marie Blanchard qui suit « La caractéristique majeure de l'exégèse patristique est qu'elle se situe d'emblée du côté de la lecture des textes considérés à la lumière de la foi pascale, laquelle constitue toujours la clé herméneutique, susceptible de réduire les tensions internes au livre. Et leurs analyses ne vont pas s'arrêter à un seul texte, par exemple à un seul évangile, mais au contraire rapprocher plusieurs textes évangéliques. L'analyse sacronique, quant à elle, ne va s'intéresser qu'à un seul texte, mais dans sa dynamique, dont elle va rechercher le sens théologique. Si le geste des uns et des autres semble au départ se distinguer au point de ne pouvoir se rencontrer, il me semble que l'approche narrative, dans l'utilisation de ces outils, peut avec bénéfice lire les pères. Je vais prendre l'exemple de la narrativité et des commentaires de pères analysant des personnages ou des faits dans Luc 24 et Jean 21. Je ferai ce que reproche les exégètes aux patrologues, c'est-à-dire que je piocherai à droite et à gauche dans la littérature patristique et je me servirai pour ce faire des travaux de notre séminaire et des commentaires de François Beauvau. Je rappelle quelques outils de l'approche narrative. Les personnages, les intrigues, le point de vue, le cadre spatio-temporel, je ne vais me servir que des deux premiers. La caractérisation des personnages. Comment le narrateur construit le personnage, son personnage. Les personnages révèlent ce qu'ils sont dans leur discours. Donc, je vais d'abord parler de la caractérisation des personnages et ensuite de l'intrigue. Caractérisation des personnages. Donc, le narrateur construit son personnage avec ce que le narrateur construit son personnage avec ce qu'ils disent dans leur discours, avec ce que le personnage dit dans son discours, par ses actions, ce qu'ils font, par ce que d'autres disent d'eux et ce qu'en dit le narrateur. Les intrigues. Deux sortes d'intrigues. Intrigue de situation, comment ça va se passer? Intrigue de révélation, qu'est-ce que cela révèle? Qu'est-ce que cela révèle de Jésus, de son rapport au Père et de son rapport aux autres personnages? Construction des personnages. Je vais commencer par les femmes. Les femmes, et puis je passerai parmi les personnages, il y a Marie-Madeleine, je passerai à Pierre, et puis ensuite, je m'intéresserai à l'intrigue de situation et de révélation. Et nous verrons que justement, toutes les questions, enfin la plupart des questions que nous avons vues avec, à l'instant, avec Augustin et avec Cyril, merci, quel corps? Pourquoi a-t-il disparu? Eh bien, ce sont les questions que nous posons, nous, avec les intrigues. Donc, je reprends construction des personnages avec les femmes, les apôtres. Donc là, je vous montre une icône. J'ai voulu égayer un peu mon propos. Et voilà, la construction des personnages. Qui sont-elles ? Alors, en narrativité, nous répondons avec le verset Luc 23, 55. Nous débordons de 24 pour savoir qui sont ces femmes. Eh bien, ces femmes, les femmes qui ont accompagné Jésus depuis la Galilée, et en 24, 10, donc là, vous le trouvez dans les papiers que je vous ai donnés, trois femmes sont nommées, et parmi elles, Marie de Magdala. Que font-elles, ces femmes ? Elles vont embaumer le corps de Jésus qu'elles ne trouvent pas, verset 3. 24-3. Elles sont déconcertées. Kai egeneto ento aporestai aotas, Luc 24-4. Aporeo, dans le dictionnaire, signifie une grande confusion, perplexité. Elles voient deux hommes. Elles ont peur. Emphoboton degenomenon auton, Luc 24-5. Elles baissent la tête en signe de respect. Les deux hommes, les anges, leur rappellent les phrases prononcées par Jésus à propos de sa passion, et leur demande « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ?» Verset 5. Le narrateur nous dit qu'elle se rappelle les paroles de Jésus. Elles font donc un acte de mémoire. Et qu'elles annoncent tout cela. « Ape geilan totam panta » Luc 24, 9. Elles ont ce rôle essentiel d'annoncer. Les autres femmes le disent aussi. Mais les onze prennent ces paroles pour un non-sens, un délire, l'éros. Luc 24, 11. Remarque, on ne sait pas ce qu'elles disent, puisque ce n'est pas en style direct. Mais le narrateur nous le signale plusieurs fois. À la différence de Marc, donc je vous l'ai mis en synopse, donc vous voyez que Luc les fait s'exprimer. Il y a une insistance sur le fait qu'elle rapporte les paroles, mais il n'y a pas de précision sur le contenu. Alors, j'ai repris une réflexion d'Ambroise de Milan, dont je vous ai mis le texte sur la feuille. Ambroise de Milan, il félicite d'abord les femmes, les dernières à s'éloigner du tombeau, elles sont les premières à y retourner. Aussi bien, c'est dans les citations, à la fin, page 5. Aussi bien, à l'heure de la résurrection, elles sont là. Page 5 ou page 3 plutôt ? 3. Merci de m'aider. Aussi bien à l'heure de la résurrection, elles sont là. Et tandis que les hommes ont pris la fuite, elles sont seules. Elles seules sont averties par l'ange de ne pas avoir peur. Elles appellent Pierre. Leurs ailes le devancent, leur foi le suit. Ambroise aborde ensuite les problèmes qui ont jeté l'Antiquité chrétienne dans le désarroi, les données contradictoires des évangiles concernant la chronologie et les personnes. François Beauvon remarque. Ambroise prend le temps d'harmoniser ses indications par des arrangements qui peuvent sembler des tours de passe-passe. Donc là, nous avons deux commentaires. L'un, c'est complètement narratif, et l'autre, c'est complètement historique. En narratologie, on ne va s'occuper normalement que de la narrativité, mais les narratologues ne sont pas des ignares. Ils n'ignorent pas, évidemment, les questions historiques. Notons que dès cette époque, Ambroise procède à une construction des personnages, des femmes, et parmi elles, de Marie-Madeleine. Construction faite par le récit. Et s'il mélange le récit de Luc avec le récit de Jean, sa lecture, dirions-nous aujourd'hui, est canonique, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il prend le canon des Écritures. Je pourrais même dire la même chose d'Eusèbe de Césarée, qui essaie de comprendre combien il y a de Marie, combien il y a de Madeleine, et quels sont leurs rôles. De même, Bède le Vénérable, lui aussi raconte les faits, mais il leur confère également un sens spirituel. Il insiste sur la quête des femmes qui cherchent et trouvent dans la ferveur de leur affection. Elle nous donne, nous dit-il, un exemple mystique d'accès à l'autel du Seigneur, représenté ici par le sépulcre au sortir des ténèbres qui symbolisent des vices. Tous remarquent que les femmes ne sont pas crues. Et note la différence avec Marc 16, 8. Je vous rappelle, les femmes s'enfuirent et ne dirent rien, car elles avaient peur. Elles ne dirent rien. Si Luc fait la part belle aux femmes dans son œuvre, particulièrement dans l'Évangile, c'est du côté de ceux et celles qui reçoivent et écoutent. Il est vraisemblable que cette part des femmes ait été importante au début du christianisme, nous dit François Beauvon, et que ces voix féminines ont été étouffées ultérieurement. dans l'Église qui se constitue. Je vous rappelle les travaux de Elisabeth Schlösser, Fiorenza, In Memory of Her, et Brock sur Marie-Magdalène, qui s'interrogent sur pourquoi les femmes ne sont pas crues. Elles donnent certes de leurs biens, nous dit François Bovon, et offrent l'hospitalité, mais elles n'assument aucune responsabilité apostolique et ne proclament jamais l'Évangile dans les actes. Il n'est pas étonnant, dès lors, que leurs propos ici aient paru aux oreilles autorisées un léros, un bavardage, une sottise, un délire. Mais en fait, le problème est-il qu'il ne faut pas montrer une femme qui enseigne et qui accède à une connaissance parfaite du Christ, ou est-ce encore une foi vacillante, comme le soulignent certains pères, qui a besoin de s'affirmer dans une expérience en Église avec les onze? François Bovon ajoute, le verset 12 doit convaincre le lecteur que le témoignage fragile des femmes a reçu une confirmation plus solide d'un homme, et surtout du leader du groupe des douze, le futur porte-parole de l'Église, à savoir Pierre. Passons à Pierre. Le verset 12, il est absent du codex de Bèze et de beaucoup de témoins Vetus Latina. Donc nous avons eu, pendant tout un temps, ce verset 12 a été enlevé et considéré comme superfétatoire. Et maintenant, il est plutôt considéré comme faisant partie du corpus, et il est gardé. Luc signalera expressément, donc Pierre, quel est le verset 12? Vous l'avez sous les yeux? Voilà. Pierre court au tableau, au tombeau, pardon. Luc signalera en 24-34 qu'il y aura une autre apparition, et là il sera appelé Simon. Donc Pierre court au tombeau. Le style est lucanien, nous dit le texte, le Anastas imite la Septante. Le fait qu'il court plutôt qu'il ne marche suggère, suivant une habitude biblique, qu'en cette heure, le Dieu d'Israël s'active. Plus important encore, le verbe parakupto, qui a d'abord signifié se baisser de côté, regarder de côté, se baisser pour examiner, en arrive à signifier simplement regarder. Ici, le verbe signifie que Pierre tend ou baisse la tête pour regarder. Comme il regarde à l'intérieur, il le fait plus facilement en se penchant. Pierre s'apprête à observer une situation qui sort de l'ordinaire. Pour exprimer l'absence de la dépouille, Luc signale que Pierre n'aperçoit que la trace du passage de Jésus meurt. On a parlé tout à l'heure des bandes, les seules noma bandes ta odonia qui enveloppent la dépouille. L'apôtre est surpris, stupéfait, admiratif. Il est difficile de saisir les nuances ici du verbe tomazo. Cette attitude, néanmoins, marque déjà un progrès. Au manque de foi, apisto du verset 11, succède l'admiration hésitante du verset 12. Vous voyez la progression. Nous notons devant l'absence du corps et sa présence quelque part. Signifié par les paroles des hommes, il n'est pas ici, mais il est ressuscité du verset 5-6. Je passe aux intrigues. Chez Jean Chrysostome se pose la question, donc là je prends un texte de Catherine qu'elle nous avait proposé lors du séminaire à propos de Jean 21, que vous avez sur votre papier. Ça doit être la page 5, je pense là. Au milieu, au-dessus de Jean-Noël Haïti. Donc, peut-être, en entendant cela, avez-vous été rempli d'un brûlant désir, avez-vous trouvé bienheureux ceux qui avaient été avec lui, ainsi que ceux qui vont être avec lui le jour de la résurrection commune. Faisons donc tout pour voir ce visage admirable. Si en effet, en écoutant maintenant, nous brûlons et désirons nous trouver en ces jours où il était sur terre, et entendre sa voix et voir comment il était, et nous approcher de lui, et le toucher, le servir, représente-toi ce que c'est que de le voir, non plus dans un corps sans mélange ni accomplissant les actions d'hommes, mais escorté par des anges, eux aussi dans un corps sans mélange. Je vous rappelle toutes les questions qui ont été posées par les pères, par quel corps, mystique, non mystique, physique, non physique, etc. Donc, je passe maintenant à Origène, dont il a été question ce matin avec Michel Fédoux. Et là, je prends les travaux du père Michel Préteau, Patrick Préteau. Les homilies sur Luc d'Origène ne renvoient pas à l'épisode d'Emmaüs. Cependant, Origène a aussi composé un commentaire de l'évangile de Saint-Luc, aujourd'hui perdu. Si l'on considère l'ensemble de l'œuvre d'Origène, nous dit Patrick Préteau, les références à Luc 24, 13, 35 sont au nombre de 62. Et sur ce total, il n'y a pas moins de 26 renvois à 24, 32. Notre cœur ne brûlait-il pas en nous tandis qu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait aux Écritures ? Nous ouvrait les Écritures. En revanche, on ne trouve que 4 renvois à l'épisode du repas, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, dont 3 pour le seul contre Celts. 2 d'entre eux servent à Origène pour défendre contre Celts la résurrection du Christ et surtout les apparitions et disparitions du Christ ressuscité. Aux prises avec un adversaire particulièrement tenace, Origène est gêné par ce récit d'apparition du Christ ressuscité qui prête le flanc à la critique de Celts. En effet, si la connaissance de Dieu ne dépend pas de l'œil du corps, alors pourquoi les disciples n'ont-ils pas reconnu le Christ au moment de l'explication des Écritures ? Et si l'Écriture emploie des termes homonymes pour des yeux autres que les yeux du corps, alors pourquoi le Christ disparaît-il aussitôt après avoir été reconnu ? De plus, la lecture originienne de l'épisode évangélique repose sur une distinction entre voir et connaître. Pour Origène, si le texte d'Évangile affirme que les disciples ont reconnu le Christ, il ne dit pas qu'ils l'ont vu autrement que par les yeux du cœur. Ce qui est intéressant dans ces débats, c'est qu'elles rejoignent la question de l'intrigue de situation et l'intrigue de révélation. L'intrigue de situation. Les disciples vont-ils reconnaître Jésus ? Donc, qu'est-ce qui va se passer en Luc 24 ? Est-ce que les disciples vont reconnaître Jésus, au moins pendant le moment où ils marchent avec Jésus ? Et puis, pourquoi le Christ disparaît-il aussi après avoir été reconnu ? L'intrigue de situation mène vers la seconde intrigue qui concerne la révélation. La révélation de la cohérence de l'itinéraire de Jésus. Le « il fallait » des souffrances pour entrer dans la gloire et la cohérence de son parcours et de sa reconnaissance. Et nous avons deux fois le « il fallait » dans ce Luc 24. La dynamique du récit, intrigue de situation. Tout se déroule le troisième jour et on constate une intensification progressive au fil des 3 scènes. 1. Le corps absent au tombeau et l'apparition des anges aux femmes. 2. Apparition aux 2 disciples sur la route d'Emmaüs et une reconnaissance tardive de Jésus. 3. L'apparition à l'ensemble des disciples et la reconnaissance immédiate. Je le dis autrement, les femmes ne sont pas crues en revenant du tombeau, mais leur annonce trouble les disciples qui n'osent le croire. Deuxièmement, les 2 disciples ont le cœur brûlant quand ils entendent Jésus leur interpréter ce qui le concerne. Étape nécessaire pour qu'ils prennent conscience que c'est bien lui. 3. Une fois qu'ils l'ont compris, ils peuvent annoncer aux autres qu'ils l'ont vu et Jésus revient au milieu de tous les disciples à Jérusalem. Le chapitre 24 est la conclusion de l'évangile de Luc qui résume et récapitule tout en montrant sa cohérence selon les règles rhétoriques de l'époque qu'indique l'expression « ne fallait-il pas ?» Luc 24-26, repris en 24-44. L'intrigue de révélation, qu'est-ce que cela révèle ? La reconnaissance, quelle reconnaissance ? Pour répondre à la question d'Origène, pourquoi le Christ disparaît-il aussitôt après avoir été reconnu ? Je reprends j'ai mis sur le papier, sur Luc 24, Jean-Noël Aletti, etc. Et je vous lis cela pour montrer la progression. Versets 1 à 12. Jésus est déclaré vivant aux femmes, mais absent et introuvable. Versets 13 à 33, Jésus est étrangement présent à deux disciples, mais non reconnu. Il se laisse finalement reconnaître. Versets 34 à 53, Jésus présent, visiblement au milieu de tous, se fait immédiatement reconnaître et demeure un certain temps avec eux. La progression ne se fait pas seulement au niveau de la rencontre et de la reconnaissance, mais de la réflexion sur l'itinéraire et sa cohérence. Pour le dire autrement, le modèle dramatique a une fonction véridictionnelle. Ça, c'est un mot que je prends des travaux de Jean-Noël Elitis. C'est la cohérence d'un parcours. L'art du narrateur est de préparer la rencontre et la reconnaissance. Il commence habilement avec une nouvelle qui va circuler, qui va se répandre. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Les anges le disent aux femmes, qui le disent aux onze et aux apôtres sans être crus. Mais les affirmations des femmes délient tout de même les langues. Le second épisode résonne de cette rumeur, de cette espérance à laquelle on ose croire, car ça fait déjà 3 jours qu'il ne s'est rien passé. Suit alors la leçon d'exégèse qui fait battre le cœur des deux disciples. La cohérence des événements précède la reconnaissance et la disparition. À leur tour, ils courent annoncer, non qu'un homme rencontré sur la route leur a dit qu'il est vivant, mais qu'ils l'ont reconnu de leurs propres yeux. Et le chapitre finit par la venue de Jésus au milieu de tous les siens qui le reconnaissent et l'écoutent leur expliquer la cohérence des événements depuis le commencement. Outre l'absence, présence de Jésus, d'autres éléments contribuent aussi à faire progresser le récit. Le premier épisode focalise en effet sur l'annonce. Il est vivant. Le deuxième sur l'attestation apportée par les Écritures à l'itinéraire de Jésus. Et le troisième sur le témoignage que les disciples devront donner de sa résurrection. Cette reconnaissance, appelée anagnorésis, est transcrite anagnorèse en français, vient de ce que le personnage Jésus a changé d'aspect. L'exemple le plus connu est celui d'Ulysse, revenu sur son Ithaque et reconnu seulement par sa nourrice Euryclée grâce à la cicatrice qu'il porte sur la jambe. En se faisant reconnaître par ceux qui avaient cheminé avec lui depuis la Galilée, qui avaient vu les signes et écouté son enseignement, le ressuscité mène à son terme le témoignage oculaire dont il est question dans les premiers versets de l'évangile de Luc, l'autopsia. S'il ne l'avait pas rencontré, comment aurait-il pu annoncer qu'il est glorifié, ressuscité, vivant? Pour reprendre la question d'Origène ou celle de Jean Chrysostome, le voir avec les yeux du cœur ou ceux du corps. Luc 24 montre aussi que le voir, c'est mon avant-dernière citation, Luc 24 montre aussi que le voir doit se purifier avec son contraire et accepter son contraire. Le ne plus voir, indiqué dans le texte par la mention de la séparation physique. C'est à cette condition que les disciples pourront annoncer le Seigneur partout, témoigner de sa présence agissante et invisible. Je conclus avec une remarque de Michel Fédou dans Les Études, lire les Pères autrement. Certes, nous devons considérer que le développement de l'exégèse critique est un phénomène irréversible et que par la rigueur de ses méthodes, cette exégèse apporte une contribution essentielle à la connaissance des Écritures. Elle ne dispense pourtant pas d'une lecture qui, à condition d'intégrer les acquis des sciences philologiques, historiques ou autres, puisse envisager toute la Bible à la lumière de la confession de foi chrétienne. Il y va d'abord de la révélation biblique. Le principe d'une exégèse typologique figurative se fonde sur l'acte du Christ qui, commençant par Moïse et par tous les prophètes, expliqua à ses disciples ce qui le concernait. Il y va aussi de la communauté chrétienne qui légitimement attend d'être éclairée et fortifiée dans sa foi par la lecture des livres saints. L'exégèse des pères lui donne justement d'éprouver la fécondité de la parole de Dieu apte à instruire les croyants en même temps qu'à nourrir leur expérience spirituelle. Je vous remercie.